Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de Force 7, un magazine d'information préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance de Sisteron entérine un protocole avec les services de la justice. Nous entendrons le reportage de Chris Alessandri. À Manosque, la voie d'accès au futur centre aqualudique est en construction. L'interview du président de la DLVA, Jean-Christophe Petrini, évoque les travaux actuels et à venir. C'est une cité de Marseille célèbre pour une certaine famille Zidane, mais ce n'est pas ce qui a motivé le photographe Teddy Seguin qui publie Castellane. Il propose un autre regard sur le lieu où vivent près de 5000 personnes. Mathieu Marc l'a interviewé. Guide de haute montagne dans le Verdon, Bernard Gorgeon publie Une vie à grimper aux éditions Glénat. 30 années de passion dans un environnement exceptionnel. Interview dans ce magazine. À Briançon, la ville édictait un règlement de police en 1702. Sa lecture aujourd'hui reste très instructive. Sécurité et délinquance, Sisteron signe un protocole.
Le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, CLSPD, s'est réuni récemment au complexe des Mares. Présidé par le maire de la ville, Daniel Spagnou, la séance s'est tenue en présence de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, Violaine Desmarais, Nathalie Williams, sous-préfète de Fort-Calquier, et également le procureur de la République, Rémi Avon, et les partenaires et intervenants du Conseil. Comme chaque année, les organismes chargés de mission dans le cadre de la lutte contre la délinquance ont fait état des travaux et actions effectués en 2020 à Sisteron. Pour clôturer cette rencontre, avait lieu la signature du premier protocole qui régira les relations entre le parquet et les maires, une première à Sisteron, actée entre le maire et le procureur de la République. Au micro de Chris Alessandri, les réactions du procureur Rémi Avon, de Christophe Marthe, chef de la police municipale, Maclou Frabi, délégué départemental aux droits des femmes et à l'égalité, et Daniel Spagnou, maire de Sisteron. Mais d'abord, la synthèse et les chiffres enregistrés sur la délinquance avec la capitaine Laurence Mazolier, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Digne-les-Bains.
Capitaine, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle avec ce bilan qui a été tiré ici à Sisteron ?
Donc, comme j'ai dit pendant la réunion, je suis plutôt confiante, les chiffres sont plutôt bons. La délinquance sur Sisteron reste stable, sauf si 2019 a été une année un petit peu plus, avec des chiffres un peu plus élevés, mais on peut trouver une explication logique. Donc franchement, je suis très confiante pour l'avenir, on fait un travail de fond et ça se maintient.
On a énormément souligné le travail de terrain que vous meniez au quotidien carrément sur, et bien sur différentes zones.
La gendarmerie est très très présente en pédestre, donc des patrouilles à pied en centre-ville, aussi bien qu'après des patrouilles sur roue, donc en véhicule dans les quartiers, sur la zone commerciale. Et du coup, ça se ressent, je veux dire que c'est grâce à ça. Les cambriolages sont plutôt en chute, puisqu'on enregistre que 35 faits en 2019, 27 en 2020, et pour 2021, on est à seulement 4 faits de cambriolage, ce qui est plutôt encourageant. Donc je veux dire que l'empreinte au sol des militaires de Sisteron est très 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 bon, appuyée en plus de ça par la réserve opérationnelle de la gendarmerie, qui en 2019 et 2020, de manière journalière, était présente sur le territoire de la commune.
En ce qui concerne le trafic de stupéfiants,
alors, le fait est que la délinquance sur Sisteron au niveau des stupes est assez importante. Enfin, fait une répression au niveau des usagers de stupéfiants assez importante, puisqu'en 2019, on relève 110 usages, 2020, 103, et 2021, on est déjà à 25 usages. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui est installé. Et si on a des consommateurs, on a évidemment des trafics qui perdurent. En 2019, d'ailleurs, on en a démantelé un qui gangrenait un peu le centre-ville ancien de Sisteron. Donc, tous ces gens ont été envoyés en prison. Mais c'est un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'observations, beaucoup de surveillance, mais on lâche pas le terrain.
Le moral, il est comment ?
Ah, il est plutôt bon, hein, excellent. Non, franchement, on a une délinquance protéiforme sur Sisteron. On n'est pas débordé de délinquance, elle est maîtrisée, mais en même temps, on peut travailler sereinement.
Rémi, avant, monsieur le procureur, vous avez dit que la sécurité passait avant tout et en amont par la prévention. C'est quelque chose à laquelle vous tenez énormément.
Oui, parce qu'on ne peut pas tout attendre de la justice. La justice doit être rendez-vous quand c'est nécessaire, mais tout ne doit pas passer par elle. Des violences commises en maternelle, comme on a pu le connaître récemment, ne ressortent pas de la compétence de la justice, mais bien plutôt de l'éducatif. Tout le monde le comprendra. Il s'agit de ne pas emboliser un système, il s'agit de trouver la bonne réponse, le bon partenaire, et c'est toute la richesse, notamment au travers du CLSPD de Sisteron, que de démontrer que sur un territoire du département des Alpes de Haute-Provence, que ce soit l'éducation nationale, les associations, les acteurs institutionnels de l'État, des collectivités territoriales, sont fédérés au sein de cette instance, toutes ces forces vives qui permettent, au regard d'une problématique, de trouver le bon interlocuteur pour apporter la réponse idoine, le lien éventuellement étant fait avec la justice.
Les magistrats ne sont pas enfermés au sein même d'un palais de justice. Ils vont sur le terrain, ils rencontrent les personnes, il y a un contact, il y a un échange et une réflexion.
Alors, les magistrats, aussi bien les procureurs que les juges, se doivent à une impartialité et à une neutralité qui contre-indique trop de présence sur le terrain au contact des uns et des autres. Par contre, il est du travail du procureur de la République, notamment dans le travail partenarial de prévention de la délinquance, d'aller au contact des élus, au contact des associations, au contact de tous les acteurs de terrain pour bien prendre le pouls de ce terrain, car on ne rend pas de bonne justice ou on ne dirige pas bien l'action publique sans être au fait de la réalité d'un phénomène délinquant sur un territoire. C'est d'ailleurs le sens du protocole qui a été signé ce jour entre l'Association des maires des Alpes de Haute-Provence et le parquet du procureur de la République.
Rémi, avant, tout un travail qui doit être fait en amont.
Tout un travail qui doit être fait en amont, aussi bien pour les citoyens, et là je parle des jeunes que l'on doit éduquer au travers des actions partenariales qui parfois associent la justice au travers de la protection judiciaire de la jeunesse, au travers du secteur associatif habilité, ça se fait en lien avec le juge des enfants, mais aussi une justice qui doit être présente en aval des générations, notamment les seniors, et c'est ce que ce matin, avec la préfète, nous avons proposé aux différents partenaires du Conseil départemental de prévention de la délinquance, un axe de travail notamment envers les seniors et les escroqueries via Internet. C'est un phénomène qui est important dans le département, qui peut conduire des personnes à se retrouver en situation financière très délicate lorsqu'un virement frauduleux est effectué sur leur compte, lorsque de l'argent leur est pris. Ce sont des affaires qui nécessitent que tout un chacun, et notamment nos aînés qui ne sont pas très au fait d'Internet ou des mails, soient attentifs à ne pas se laisser avoir par ces fraudeurs qui bien souvent agissent depuis l'étranger, qui peuvent ponctionner des sommes d'argent conséquentes sur des comptes qui parfois n'ont pas l'importance qui permet ensuite aux gens de vivre le reste du mois. Donc nous avons proposé cet axe d'action qui va nécessiter l'implication de tous, secteur associatif, mais aussi partenaires institutionnels au contact de nos générations aînées.
Maclou Frami, qu'est-ce qu'on peut dire sur les violences conjugales dans le contexte actuel ? De quelle façon est-ce que vous les avez analysées ? Comment on peut les traduire à l'heure actuelle ?
Alors, on peut les traduire déjà par des sources statistiques. Hein. Les violences conjugales, ce sont malheureusement des statistiques, puisqu'il faut quand même avoir des statistiques pour mesurer le phénomène. 568 victimes de violences intrafamiliales en 2020, dont 421 victimes de violences conjugales. La plupart des victimes de violences intrafamiliales et des violences conjugales sont des femmes. 77% dans le cadre des violences intrafamiliales, 86% dans le cadre des violences conjugales. Alors, je vous dis des statistiques, mais en réalité, je vous parle des phénomènes qui sont révélés, des situations qui sont connues, portées à la connaissance des autorités ou des associations. Mais bien évidemment, on travaille aussi sur le chiffre noir, toutes ces situations qui ne sont pas repérées de femmes ou d'hommes ou d'enfants ou de personnes âgées en souffrance, victimes de violences intrafamiliales ou de violences conjugales, qui ne sont pas repérées à l'heure où je vous parle. Et notre travail est de faire en sorte de renforcer le partenariat avec tous les acteurs concernés par la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales pour repérer ces publics, ces victimes, et les amener vers les dispositifs d'aide aux victimes et évidemment, parfois dans certaines situations, judiciariser les cas.
Cette action donc de repérage que vous faites, de quelle façon est-ce que vous la menez, cette action ? Parce que les personnes ne font pas la démarche, vous avez besoin d'aller les chercher, d'aller quelque part les identifier.
Alors tout à fait, vous le dites, en fait, il faut être vigilant. Vous avez d'abord des personnes qui ne se reconnaissent pas comme victimes. C'est-à-dire qu'elles considèrent que ce qu'elles vivent est tout à fait normal. Et donc, il faut repérer ces personnes-là pour leur expliquer que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Et je parle là des femmes victimes de violences. Souvent, elles considèrent que ce qui leur arrive et leur relation conjugale est tout à fait normal, que c'est comme ça. Donc, c'est au travers de repérages que peuvent faire des professionnels de santé, des intervenants à domicile, des professionnels de l'éducation nationale, qu'on peut repérer certaines situations de femmes victimes de violences ou d'enfants en situation de maltraitance et qu'on peut aller ensuite effectivement vers ces personnes. Alors quand il s'agit de l'enfance ou de personnes vulnérables, on utilise là les signalements, les informations préoccupantes auprès du conseil départemental. Mais quand vous avez affaire à une personne adulte non vulnérable, c'est beaucoup plus difficile. Il faut la mettre en confiance, il faut faire en sorte qu'elle puisse libérer sa parole et être en accord avec les propositions qui lui sont faites d'accompagnement global vers l'emploi, vers les professionnels de santé, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement social et parfois l'accompagnement juridique, c'est-à-dire l'accompagnement vers le dépôt de plainte.
Christophe Marthe, en tant que chef de la police, votre réaction après cette rencontre, on sent effectivement qu'il y a tout un travail de terrain, tout un travail de cohésion et également une façon de converger dans le même sens.
Oui, tout à fait. Le CLSPD, par définition, c'est le grand principe du partenariat gagnant-gagnant. Et je dirais enfin, on a pu se réunir, faire un point bilan pour tous les partenaires du travail qui a été fait. Il faut quand même voir qu'avec cette crise sanitaire, ça a bloqué beaucoup de choses. Et ça a permis quand même de considérer de voir aujourd'hui que malgré la crise sanitaire, tous les partenaires sont restés impliqués dans leur mission, hein, chacun en ce qui les concerne. Et on a bien vu la réaction de l'autorité administrative, qui est Madame la Préfète, ou de l'autorité judiciaire, qui est Monsieur le Procureur de la République. Et bon, ça fait plaisir d'entendre que nos autorités de tutelle sont très contentes du travail fait par ce CLSPD, qui est bien entendu, on le répétera jamais assez, sous le dynamisme de Monsieur Daniel Spagnou, le maire de Sisteron.
Daniel Spagnou, vous venez de signer un protocole et c'était vraiment une première.
Ah oui, c'est une première puisque je crois qu'on doit être le troisième département en France à avoir signé ce protocole qui a été voulu par le garde des Sceaux, approuvé par l'Association des maires de France. Et j'ai beaucoup apprécié que M. le procureur de la République soit un des premiers à m'appeler en me disant « il faut qu'on étudie ce protocole ». Donc on l'a étudié ensemble, on l'a révisé, et finalement, bon... Cela aboutit à une signature aujourd'hui. Oui, c'est un moment particulièrement important pour les maires de ce département.
En ce qui concerne la délinquance, vous avez bien souligné le fait qu'il faut s'intéresser aux jeunes, mais alors très jeunes, parce que la délinquance, elle commence très tôt.
Ah oui, alors vous voyez, on a été quand même surpris aujourd'hui, c'est que la délinquance commence à l'école maternelle. Alors c'est quand même... Alors c'est une délinquance souvent de harcèlement, d'enfants entre eux, mais quand même, c'est des enfants de 5-6 ans. On a eu plusieurs cas cette année dans les maternelles de Sisteron. Donc oui, en effet, mais on connaissait pas ça il y a seulement une dizaine d'années. C'est nouveau. C'est comme la délinquance infra-familiale de plus en plus présente aussi dans notre ville. Bon, ça c'est dû essentiellement au confinement qui fait que les gens sont restés enfermés. Ça a provoqué des conflits finalement dans les familles. Donc c'est nouveau. Par contre, là, tout ce qui est délinquance, vol à la roulette, vol dans les maisons, tout ça, c'est heureusement, c'est en baisse très significative. Mais c'est une nouvelle délinquance qui est en train de naître dans notre pays, puisque ce matin, j'ai assisté au conseil de délinquance départementale, et c'est exactement la même chose, que ce soit à Digne, à Manos ou à Forcalquier.
La route de la piscine.
Ce pourrait être son nom d'usage, comme en son temps, Manosque avait sa montée de l'hôpital, qui n'existait sur aucun plan. Plus pragmatique, et sur 4 hectares, c'est entre les chemins des séminaires et Auguste Girard, à Chantepreunier, que les engins s'affairent pour réaliser la voie d'accès au chantier du centre aqualudique communautaire, la fameuse piscine, projet porté par l'agglomération manosquine depuis plus de 7 ans. Le chantier démarrera en août prochain pour un coût total hors taxe de 18 millions d'euros et la structure devrait être ouverte fin 2022. Elle répondra à de vrais besoins du territoire pour les familles, les scolaires, les sportifs et toute personne tentée par les loisirs aquatiques. Située sur leur commune, elle attirera beaucoup les manosquins, mais pas uniquement. Il est à noter cependant qu'aucun élu de la cité de Giono n'accompagnait cette visite de presse, alors que la présence du maire Camille Galtier était annoncée et elle aurait été naturelle. À l'issue de cette visite, nous faisons un point sur les travaux actuels et à venir avec le président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, Jean-Christophe Pétrigny. Jean-Christophe Pétrigny, vous présidez la DLVA. La voie d'accès vers la future piscine intercommunale est en train d'être réalisée.
Oui, les travaux ont démarré au mois de février. Il était important qu'on puisse faire une petite conférence de presse sur ce sujet-là, puisque j'attache beaucoup d'importance à faire savoir ce que l'agglomération met en place sur son territoire. Donc les travaux ont démarré, ils devraient se terminer au mois de juillet. Ces travaux vont permettre dans un premier temps l'accès aux entreprises qui vont construire le centre aqualudique, puisque ces travaux du centre aqualudique devraient démarrer au mois d'août. Une fois le centre aqualudique terminé, nous finaliserons bien entendu avec les bordures, l'aspect environnemental, l'accessibilité aux bus également, cette voirie qui donc permettra à tout un chacun d'accéder au futur centre aqualudique qui devrait être terminé à l'horizon de fin 2022.
Alors avant le centre aqualudique, il y a cet accès, un accès déjà qui coûte plus de 3 millions d'euros.
Ah oui, c'est un accès, mais ça on le savait, hein, on l'avait pris en compte dans notre plan pluriannuel d'investissement, on savait qu'il fallait faire un accès de toute façon. À l'endroit où on avait décidé d'implanter le centre aqualudique, qui est à proximité de la chaufferie bois, qui va alimenter ce centre aqualudique. Les travaux de cette voirie d'accès finalisée se situent aux alentours de 3 millions d'euros qui vont être financés en partie par la région au travers du CRET. Les travaux proprement dits du centre aqualudique s'élèvent à 18 millions d'euros. Ils seront financés à hauteur d'un peu plus de 10 millions d'euros par nos partenaires institutionnels que sont l'État, la région, le département des Alpes-de-Haute-Provence et la ville de Manosque qui finance au travers d'un fonds de concours.
C'est l'investissement le plus important de l'agglomération.
C'est le programme le plus important financièrement, mais c'est un programme qui met en avant la coopération, la territorialisation. On va permettre à l'ensemble des enfants de nos écoles et du territoire de pouvoir accéder à ce centre et pratiquer le savoir nager. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants de notre territoire ne vont pas à la piscine au travers de l'école.
Il y aura aussi, par exemple, un espace bien-être et des endroits pour pouvoir recevoir, comme vous le disiez, des scolaires.
Oui, tout à fait. Le centre est doté de bassins qui va permettre à la fois d'accueillir les associations, le monde sportif, le monde scolaire. Mais on n'oublie pas non plus les habitants du territoire, les touristes du territoire, puisqu'on a besoin également financièrement de faire rentrer des recettes. Donc il va y avoir un espace bien-être qui sera proposé à l'ensemble des habitants et qui pourrait et qui devrait générer des recettes complémentaires pour le fonctionnement du centre.
Quant à l'accès, il y a un élément important, c'est effectivement l'arrêt de la ZAC Chanteprunier qui permettra quand même une circonvolution pour le public par rapport au centre aqualudique.
Alors bien entendu, par la suite, on ne va pas faire en sorte que ce centre aqualudique soit un cul-de-sac. Donc il est bien entendu prévu, même si la ZAC Chanteprunier a été arrêtée suite au dernier conseil communautaire, il est prévu par la suite de désenclaver cette zone et de relier la Lisène-Linem que l'on a créée pour éviter à tous les habitants du territoire nord de Manosque de traverser la ville pour accéder au centre. Donc il y aura un désengorgement de fait, mais ça viendra après la construction du centre.
Alors pendant la construction, justement, vous avez prévu de l'ouvrir, entre guillemets, au public pour certaines périodes pour que les gens puissent s'approprier ces travaux.
Oui, on a été depuis le début de la démarche dans la concertation de la population. Là, on veut profiter aussi de la construction du centre pour permettre aux habitants qui le souhaitent de venir voir les travaux sur site. On a prévu deux périodes pendant la durée des travaux où on donnera la possibilité à la population de venir voir le chantier sur place.
Marseille, un autre regard sur la cité de la Castellane.
Photographe professionnel, Teddy Seguin a arpenté et photographié la cité de la Castellane pendant 5 ans. Il est allé à la rencontre des habitantes et habitants de ce territoire, qu'il a abordé comme une île urbaine, séparée à la fois géographiquement et socialement du reste de la ville. Ils sont près de 5000 à vivre dans ce grand ensemble phocéen. C'est le 3e volet d'un projet autour de l'insularité que Teddy conduit depuis 2010 et qu'il a déjà mené à Terre-Neuve, au Mexique ou en Corse. Ces photos ont donné lieu à un livre, Castellane, sorti aux éditions Filigrane en 2019, accompagné des textes de Youssouk Djibaba, résident de la cité et précédemment auteur du roman Comme des rois. Les images sont disponibles sur insulaeproject.com. Teddy Seguin répond aux questions de Mathieu Marc.
Tout a commencé sur Google Earth, en fait, tout simplement, tout bêtement. Je voulais, en fait, dans le cadre du projet Insulae, trouver une insularité urbaine. Parce que j'avais travaillé sur des îles, j'avais travaillé sur des petites communautés de pêcheurs isolées, et je voulais quelque chose qui soit différent, mais où on retrouve comme ça des caractères insulaires. Et pour moi, ça avait du sens de travailler sur l'insularité urbaine. En regardant la carte de Marseille, j'ai trouvé que la Castellane avait vraiment toutes les caractéristiques d'une citadelle, avec un plan qui était très très fermé, ce qui est d'ailleurs plus le cas maintenant, puisque entre-temps, il y a eu un plan de rénovation urbain qui a changé cette géographie. Mais en tout cas, à l'époque où je m'y suis intéressé, c'est vraiment ça qui m'a fait mettre le doigt sur cette cité plutôt qu'une autre.
Comment vous avez approché ce territoire? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident d'arriver dans cette île urbaine où il y a une vie aussi, une vie dense.
Oui, effectivement, il a fallu être prudent et s'y reprendre à plusieurs fois, faire preuve de ténacité pour aborder cette île. Je suis passé par le centre social, qui est lui-même au cœur de la cité, que ce soit physiquement, mais aussi humainement, puisque il voit passer que ce soit la jeunesse, les mamans, tout le monde passe par le centre social. Et c'était une manière aussi de pouvoir me présenter et montrer un petit peu patte blanche sur le fait que voilà, j'avais un projet qui était pas là pour m'intéresser au réseau, pour faire un travail de reportage misérabiliste sur le quartier comme ils en ont déjà vécu tant. Et petit à petit, on s'est mis d'accord sur le fait que la meilleure démarche d'introduction, c'était de commencer par m'occuper des enfants avant de commencer à travailler sérieusement dans le quartier.
Vous n'avez pas sorti l'appareil tout de suite ?
Non, j'ai pas sorti. Enfin, si, j'ai sorti l'appareil tout de suite parce que je voulais être identifié tout de suite comme photographe. En revanche, j'ai pas fait de photo tout de suite. Et on a commencé à monter un atelier photo avec les ados du centre social. Et ça, en fait, ça a pris une dimension folle. Je suis tombé sur un petit groupe de 7 enfants de 10-15 ans qui se sont vraiment pris au jeu. Et on a sillonné comme ça le quartier tous les mercredis pendant un an. On a commencé à exposer des photos dans le quartier. On a exposé dans des galeries à Marseille. Il y a des choses là qui ont commencé à se construire et à se nouer entre moi et les habitants.
Oui, parce que nous, en tant que spectateurs extérieurs, nous voyons les photos qui aujourd'hui existent et on se rend bien compte que là, c'est un processus personnel long et d'ancrage dans un territoire. Ça a mis beaucoup de temps aussi pour réaliser ce projet.
Bah oui, de fait, c'est un territoire qui est très exposé médiatiquement. Et donc les gens ont pris l'habitude de se méfier de l'extérieur. Et ça fait partie du côté insulaire, justement, la méfiance vers l'étranger, vers la personne qui vient de l'extérieur. Et puis particulièrement vis-à-vis de l'image, c'est sûr qu'il y a une crispation importante. Donc il fallait d'abord effectivement faire ce processus de présentation, de montrer quelles étaient mes intentions dans le quartier, avant de pouvoir commencer à travailler, puis travailler un petit peu tranquillement, discrètement, puis petit à petit, de plus en plus librement, jusqu'à pouvoir faire à peu près ce que je voulais dans le quartier, tant que je passais pas certaines limites.
Alors, c'est pas forcément évident à décrire, mais elles ressemblent à quoi, ces photos?
Déjà, je travaille en noir et blanc. Je travaillais en argentique aussi. Ça, c'était un point qui était intéressant parce que ça avait un côté rassurant aussi de travailler de cette manière-là. On voyait bien que j'étais pas un journaliste qui était là pour travailler sur de la presse de news. Moi, ce que j'ai cherché, c'est essayer de trouver des atmosphères, des ambiances qui montrent à la fois le quotidien de la vie du quartier, mais qui montrent aussi ce côté un peu fermé, insulaire, ce côté microcosme. Donc, ce qu'on voit, c'est dans un premier temps la découverte du quartier avec des photos générales de l'architecture qui est importante justement dans le message ou en tout cas l'objet de mon projet. Et jusqu'à la vie à l'intérieur des appartements, le quotidien un peu des habitants de la cité.
Et alors dans ce livre, il y a aussi du texte, dans ce livre qui s'appelle Castellane.
C'est Youssouf Djibaba qui a écrit les textes de ce livre, qui est quelqu'un qui a grandi dans le quartier. Il a été enfant dans ce quartier et il avait déjà écrit un livre qui s'appelle Comme des rois, qui est une fiction, mais qui reprend un petit peu son enfance et sa jeunesse dans ce quartier. À la lecture de ce livre, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, un échange à faire entre nous deux, entre nos deux expériences. Et Youssouf a trouvé ça, est rentré dans le jeu très vite, a trouvé le projet intéressant. Et a décidé de regarder mes photos et essayer de convoquer des souvenirs de son enfance à partir de ces photos. Ça ne veut pas dire que ces textes sont des commentaires de mes images. Bien au contraire, c'est juste que mes images ont évoqué des souvenirs en lui. À partir de là, il a écrit des petites scénettes, on pourrait dire.
On peut aussi redonner les références de livres.
Donc Castellane aux éditions Zoem Filigrane, qu'on peut trouver pour le moment essentiellement dans les librairies marseillaises.
Bernard Gorgeon a passé toute une vie à grimper.
Comme un clin d'œil à son patronyme, son nom affiche une contraction de son territoire de prédilection. Bernard Gorgeon est installé dans les gorges du Verdon, et ce depuis 3 décennies. Guide de haute montagne, il compte parmi les pionniers de l'escalade et du canyoning dans le Verdon, mais l'homme est aussi passionné par le chant et combine randonnée et art vocal avec bonheur. Il publie aujourd'hui son premier livre aux éditions Glénat, Une vie à grimper, et son parcours de vie fait de plaisir, de l'escalade, découverte de la nature, soif de découverte et frissons parfois. Disponible en librairie, ce livre lui a demandé 3 années de concentration et d'écriture. Bernard Gorgeon, au micro d'Odile Frison.
Bernard Gorgeon vient de paraître Une vie à grimper, dont vous êtes l'auteur. Une vie à grimper, donc aux éditions Glénat. Est-ce que c'est un peu un livre autobiographique, ce travail de guide de haute montagne?
Oui, c'est un livre autobiographique. Oui, chapitre du livre, le travail de guide, disons, de ma vie sur les rochers provençaux, quoi, de mon activité sur les rochers provençaux, puisque j'ai ouvert pas mal de voies, j'ai découvert plusieurs sites, j'ai participé à la découverte de plusieurs sites qui sont devenus de réputation mondiale depuis. Donc, ça parle de tout ça.
C'est un premier livre?
Oui, tout à fait.
Un livre qui est plein d'humour et avec des anecdotes. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre?
On y trouve un peu un panorama des sites d'escalade de la région, déjà, y compris la Corse. Parce que bon, effectivement, comme je vous disais, j'ai ouvert des voies un peu dans divers sites d'escalade de la région. Voilà, et puis des considérations sur le plaisir de l'escalade, sur la beauté de la matière, du rocher, de la nature en général, des souvenirs de voyage aussi, en montagne ou pas. Sur le déroulé de ma vie, une autobiographie. Donc, il y a de l'escalade, il y a beaucoup d'escalade, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des considérations sur la vie en général.
Il y a aussi donc les trouilles, parce qu'évidemment, dans ce métier, il y a des moments de grande joie, mais aussi de grande frayeur.
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a tout, de grandes frayeurs, de grandes fatigues. Donc il y a effectivement, on parle un peu de ça. Bon, c'est pas le côté sur lequel j'ai pas voulu faire un livre, comment dire, rendant compte sèchement, on va dire, de performances extrêmes. C'est plus sur l'ambiance des années aussi. Les années, voilà, moi en 68 j'avais 15 ans, c'est les années qui ont suivi 68 et qui étaient assez agréables à vivre.
Vous êtes guide de haute montagne, mais chanteur aussi. J'ai pu voir donc sur YouTube, donc vous êtes en train de chanter Bella Ciao, suspendu à une falaise. Ça fait partie aussi le chant de votre vie de guide.
Oui, oui. De vie tout court et puis de vie de guide aussi, puisque il y a une quinzaine d'années que je propose des stages de chant et randonnée dans le cadre de mon activité de guide. C'est le côté professionnel. Après, voilà, pourquoi chanter? Ben, on sait pas trop pourquoi, hein. Pourquoi on grimpe aussi? Bon, voilà, on fait ça parce que on a une propension particulière pour ça, hein. Après, chanter, j'ai un grand-père qui avait enregistré un disque en 1923. Donc, je pense qu'à cette époque-là, c'était pas très courant. Donc, il y a peut-être des choses qui sont passées dans les gènes, comme ça.
Dans ce livre, donc, Une vie à grimper, il est aussi question d'un couteau. Et quel est le doudouk?
Le doudouk, ouais. Ben, le lien, c'est parce que dans une voie, dans le Luberon, là, du Houx, il y a un animal qui était logé dans une prise qu'on prenait, une grosse prise, et qui mettait des cris, voilà, de ce genre-là, douk, douk. Et puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un couteau qui s'appelait comme ça. Donc cet animal, bah, nous, dans nos élucubrations, on va dire, c'est devenu une espèce de dahu. Et un jour, sur le marché de Noël à Arles, j'ai vu qu'il y avait un couteau qui s'appelait le douk douk et qui coûtait à l'époque 10 francs, 1,50 €, quoi. Et un bon couteau, donc du coup, c'est devenu un peu notre couteau dans mon entourage, quoi, dans la bande d'amis qu'on était là à grimper, à faire tout ça. Et j'en parle dans le livre, et j'ai eu l'occasion de séjourner à 200 mètres de la coutellerie qui fabriquait ce couteau, donc je suis allé les voir et on a fait une série spéciale qui est un peu liée à la sortie du livre.
Ce livre, on le trouve désormais dans toutes les librairies ou est-ce qu'on peut le commander?
Alors effectivement, certainement la meilleure solution, on va dire, c'est certainement de demander à son libraire voisin de le commander. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et sinon, bon, il se trouve sur le site internet des éditions Glénat, il se trouve à la FNAC.
Premier livre donc dont vous êtes l'auteur. Est-ce que vous pensez écrire une suite? Est-ce que l'exercice vous a plu pour continuer éventuellement une suite?
Bah, il faut avoir plusieurs vies. Vu le thème, ouais. Vu le fil d'Ariane, il faut avoir plusieurs vies, mais c'est vrai que oui, l'exercice m'a plu. Hein. Bon, c'est un travail de 3 ans. Hein. Ça m'a plu. Après, de là en écrire d'autres, je ne sais pas. Peut-être il y a pas mal d'illustrations dans le livre. J'ai toujours fait des photos. Là, la collection dans laquelle il est édité n'a pas toujours permis de mettre les photos en valeur. Alors, le prochain sera peut-être un livre de photos.
Actuellement, vous continuez l'escalade et les chants de randonnée, les chants...
Oui, je continue, bien sûr. Ouais. Tant que je pourrai, je pense que je grimperai et je chanterai. Ouais. Ça fait vraiment partie de mon équilibre.
Et vous chantez quoi alors, des chansons, des reprises?
Oui, il y a des reprises. Non, je ne compose pas. Enfin, si, j'ai composé 2-3 chansons dans un atelier d'écriture de chants là, que j'ai suivi avec Claude Lemel. Non, je chante. Il y a des chants qui m'inspirent plus, comme les chants corses, par exemple. Et puis après, voilà, des reprises.
Il y a un site où on peut vous entendre?
Ben oui, sur mon site chantrandonnée.com, effectivement, j'ai mis des extraits de chants.
En 1702, le règlement de police de Briançon était affiché.
Responsable des archives municipales de Briançon, Arnaud Gagneux présente le règlement de police daté de 1702, vers la fin du règne de Louis XIV. Conservé aux archives, ce document est une affiche extraite d'une délibération rédigée par les consuls, officiers de police et juges de la communauté de Briançon. Il indique les différents droits et interdictions pour les habitants de la cité, en particulier l'utilisation du feu, des fontaines, des rues et canaux, des bois, etc. Ce règlement était destiné à être placardé dans la ville pour qu'il soit connu et appliqué par tout le monde. Arnaud Gagneux présente ce règlement de police au micro de Susanna Wright.
Aujourd'hui, je vais vous présenter les archives municipales. Donc, nous sommes ouverts au public du mardi au vendredi, mais uniquement sur rendez-vous, donc soit par mail, soit par téléphone, que vous retrouverez sur le site de Fréquence Mistral. Pour nous contacter, je vais vous parler plus en détail d'un règlement de police de 1702 qui s'applique donc à la ville de Briançon. Ce qu'il faut dire sur ce document, donc c'est un document établi par les consuls de la ville de Briançon, qui ont bien sûr tout droit de police dans leur ville, bien qu'il y ait quand même d'autres personnels délégués sont mandatés par le roi pour maintenir une certaine, en tout cas pour la justice, c'est le roi qui l'exerce, en tout cas via un délégué, hein, donc c'est soit l'intendant, soit un procureur, voilà. Mais tout ce qui est, on va dire, la police générale ou la police locale, c'est établi par les consuls de Briançon, et donc il comporte plusieurs interdictions ou en tout cas conseils pour les habitants de Briançon. Le règlement commence déjà par 16 articles sur le feu, très important, puisqu'à Briançon, il y a une histoire assez particulière, puisqu'il y a déjà eu des incendies par le passé, notamment en 1692, un incendie plutôt ravageur, puisqu'il a, les trois quarts de la vieille ville, donc la cité Vauban, ont été incendiés, et pas les archives, puisqu'on a, les traces dans les archives, qu'on a en fait le récapitulatif de tout ce qui a été brûlé. Voilà, donc c'est un espèce d'inventaire après incendie, et on a miraculeusement les archives qui ont été sauvées et qui n'ont pas brûlé, d'où le fait qu'on a beaucoup de traces du passé à Briançon. Donc pour le feu, en tout cas, il est ordonné aux habitants d'entretenir leurs cheminées et fours pour éviter tout risque d'incendie, et en particulier on s'adresse surtout aux boulangers, aux bouchers ou à différents corps de métiers qui utilisent fréquemment leurs fours et cheminées pour qu'ils les fassent inspecter, ramonner surtout. Sinon, ils s'exposent à des risques, des peines, alors soit des amendes, évidemment, mais s'ils ne payent pas les amendes, on peut leur saisir leurs biens, et ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement.
Oh là là.
Donc c'est assez sévère. Ensuite, le règlement continue sur l'utilisation des fontaines. Donc il est indiqué que les habitants n'ont pas le droit de vider l'eau des fontaines, sans la permission, bien sûr, des consuls et des officiers de police. Pareil, hein, les sanctions sont évoquées, des sanctions plutôt financières, hein, des amendes. Et ensuite, on nous indique qu'il est interdit de faire laver dans les fontaines le linge. Ce n'est pas un lavoir, mais aussi toutes sortes d'aliments. Alors, la viande, les herbes, pareil, sous peine de contravention. Ensuite, on a tout ce qui est lié aux rues et aux canaux. Donc là, les canaux, évidemment, à Briançon, on a une grande histoire avec les canaux qui ont été fixés dans la Charte des libertés des escartons, donc de 1343. Donc on nous dit comment utiliser les canaux. Bon, bien sûr, de pas verser ces déchets dans les canaux, et pareil pour les rues. Donc il y a déjà, on va dire, les premières mesures d'hygiène, puisqu'il faudra quand même attendre le milieu du 19e siècle pour avoir les premières, on va dire, lois sur l'hygiène, sur la salubrité publique, mais on a déjà quand même des choses dessus bien avant, hein. On n'a pas attendu le 19e pour anticiper la situation, en tout cas à Briançon, mais partout en France, on peut retrouver ça. On a aussi l'utilisation des bois, des forêts. On n'a pas le droit d'entrer dans les forêts ou de couper du bois sans autorisation. C'est le cas encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Et on a aussi tout ce qui est lié au prix du pain. Donc c'est quelque chose qui est assez marquant, de l'Ancien Régime, mais aussi de la période du 19e, puisque même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a ce qu'on appelle mercurial du pain. Donc il y a une loi qui fixe le tarif du pain, un minimum en tout cas. Chez un boulanger, on doit le trouver à 2 sols et 1 denier, et chez un cabaretier, donc plutôt un restaurant, 2 sols et 4 deniers. Voilà, donc le prix du pain. Je pourrais pas vous dire quelle est la somme en euros actuelle, mais bon, peut-être que c'est 1 euro, peut-être pas, on sait pas. Voilà pour ce document-là.
Et les règlements étaient bien suivis par les Briançonnais ?
Il faudrait regarder dans les archives liées à la justice, ou les archives proprement dites de la police de l'époque, pour voir si c'était très, très, très bien respecté. Mais pour les archives, vraiment, s'il y avait des peines très lourdes, les archives de la justice sont plutôt conservées aux archives départementales.
c'est la fin de ce magazine. Merci François, à bientôt.
Merci Olivier, à la semaine prochaine.